Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble et j'espère que tout va bien se passer. Mais d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni, ore wa naru.
Batman ! Oh, d'un petit ch'tou !
Trop vite ! Venez pas suite-moi ici !
Justement, les touristes de bord !
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la télévision, enfin de la BD franco-belge, du manga et du comics. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que tout s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas trop abusé des chocolats, que vous avez laissé tranquille les petits lapins et puis les petites cloques-cloches, même si j'ai l'impression que les cloques-cloches, on les voit moins au profit des lapins. Mais bref, trêve de digression. On est parti ensemble, mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Florence. Ça va, Florence ?
Ça va, merci, bonsoir tout le monde.
Et je suis en compagnie de Bruno. Ça va, Bruno ?
Ça va. Il peut essouffler, mais avant l'heure, c'est pas l'heure.
Avant l'heure, c'est pas l'heure. À plus l'heure, c'est plus l'heure. Mais il existe déjà une émission qui s'appelle Le Quart d'Orange Vin, donc on va éviter de le refaire chez nous. Dans quelques instants, on aura aussi le plaisir d'avoir un auteur de BD en la personne de Philippe Cardona pour parler de Starlight, son dernier album qui vient de sortir aux éditions Dupuis. Mais d'abord, on va commencer avec les news. Allez, c'est parti, Florence.
Oui, alors on va commencer par des événements qui auront lieu prochainement. Les 11 et 12 avril prochains aura lieu Angers Geek Fest au parc des expositions à Verrières-en-Anjou, avec une programmation entièrement dédiée à la pop culture. Donc dans une ambiance familiale et très conviviale, vous pourrez assister à de nombreuses animations, concours et défilés de cosplay, concerts et spectacles, ateliers de dessin et de calligraphie, des rencontres avec des auteurs et des autrices. Il y aura des bornes de jeux vidéo qui seront donc mises à disposition pour le public. Et bien sûr, il y aura aussi des expositions et des stands avec de nombreuses collections de bandes dessinées et mangas. Pour les tarifs, c'est 25€ pour le pass de jour, 12 pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour le pass un jour, 15,50€, 7,50€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Vous avez aussi donc le pack famille, 2 adultes et 2 enfants pour 69€ ou 39 pour le pass un jour. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, ainsi que pour les personnes en situation de handicap venant avec un accompagnant.
Mais c'est cool ça.
Ça va être super, je pense. À la même date, les 11 et 12 avril prochains, se tiendra le festival BD Bulles d'Ozon dans la salle Acropolia à La Roche-Posay dans la Vienne. 27 auteurs et autrices seront présents pour des rencontres et des séances de dédicaces. Il y aura des ateliers dessin, la projection d'un film qui s'intitule L'histoire de la page 52 et un jeu de piste sera également organisé pendant ce festival qui est gratuit pour tout le monde.
Trop cool!
Un petit peu plus loin, du côté des côtes maritimes, le dimanche 19 avril se tiendra le salon de la BD et du livre de Royan sur la promenade du Gard de Mons en Charente-Maritime. Ce sera la 3e édition. L'édition précédente avait eu beaucoup de succès malgré une météo capricieuse. Donc on espère que le soleil sera au rendez-vous cette fois-ci pour attirer encore plus de monde. Une 30aine d'auteurs et autrices seront présents pour des dédicaces et des échanges autour de leurs œuvres. Et il y aura du choix, de la bande dessinée, des mangas, des livres jeunesse, de la poésie et des romans et ouvrages historiques. Et ce sera l'occasion de découvrir la BD événement sur l'histoire de Royan, de Patrick Giraud et Marie Avril, Royan de sa naissance à sa reconstruction dans les années 70. L'événement est gratuit.
Toujours très cool.
Alors, autre information du jour, donc dans l'affaire Delcourt et Oxymore, la justice a tranché. Pour résumer un peu la situation, en 2011, la maison d'édition Delcourt, qui est une grosse maison d'édition, avait racheté l'activité et les marques du groupe Soleil, qui est une maison d'édition toulonnaise de bande dessinée. Et parmi les collections, on y trouve Métamorphose, dirigée par Barbara Canepa, et Noctambule, dirigée par Clotilde Vue. Delcourt avait gardé donc les équipes éditoriales déjà en place, ainsi que les noms des collections qui en dépendaient. En 2023, Mourad Boudjelal, qui avait créé le groupe Soleil en 1989 et qui s'en était donc séparé, revient dans le monde de l'édition et crée sa nouvelle maison, Oxymore. Ses deux anciennes collaboratrices, qui avaient décidé de ne pas renouveler leur contrat arrivé à échéance avec Delcourt, rejoignent le groupe Oxymore et décident de poursuivre le développement éditorial avec les marques Métamorphose et Noctambule et d'en contrôler leur usage. Delcourt a estimé que c'était illégal et que suite aux accords conclus dans le passé, ils étaient les seuls à pouvoir contrôler ces marques. Et le 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt. Donc c'est un litige qui illustre bien la complexité, parfois les divergences qui peuvent découler de partenariats, que ça soit dans le monde du livre ou dans d'autres domaines, même si le but de toute collaboration à l'origine, c'est que chacun y trouve son compte.
Tout à fait, et j'ajouterais que le monde de la BD est un petit monde où tout le monde se connaît, et effectivement, bah, quand on travaille bien avec quelqu'un, on a toujours tendance à vouloir travailler avec, et quand bah, y a des migrations, des mercatos, on va dire, BD, et ben, parfois ça peut poser des petits soucis en termes de gestion de marque, comme on vient de le voir. Merci Florence, t'avais encore autre chose ou pas?
C'est fini.
C'est fini, super. Bruno, est-ce que t'es partant pour y aller maintenant?
Bah carrément.
Allez.
Toujours
de quoi tu nous parles?
Je vais vous parler de rock.
Ah tiens, ça change.
Je vais vous parler de BD rock, bien sûr. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties dernièrement, et ça me donnera de la matière pour les fois suivantes. Mais là, je vais vous parler d'une BD qui est sortie il y a pas très longtemps. Je recheck.
Tu recheck les dates.
Voilà. Qui est sortie en fin février, donc c'est assez récent. Et qui s'appelle On était des anges. Donc On était des anges, qui est un diptyque en fait. C'est le premier tome qui vient de sortir avec Terkel Richberg. Alors c'est un Danois, donc je veux pas écorcher son nom, mais je pense que c'est déjà fait. Et puis au scénario Anne-Caroline Pandolfo. Ça se passe dans les années 80, qui, comme tout le monde le sait, ont été marqués par la New Wave et le post-punk, l'essor de l'électronique. Souvenez-vous du magnifique son des batteries à l'époque, et surtout l'irruption des claviers, qui avaient un peu ringardisé le rock à guitare de la décennie précédente, les 60, les 70s donc. En attendant les années 1990 qui ont remis les guitares au goût du jour, notamment les guitares saturées, les cheveux longs, la provocation et la révolte adolescente, grâce entre autres aux Guns N' Roses, à la vague grunge, il y avait quand même de quoi s'en mettre plein les oreilles avec le rock des 80s, que ce soit la new wave, donc le post-punk, le heavy et le thrash metal. Merci à Iron Maiden d'avoir sauvé les 80s. Alors, quelle chance ont eu les adolescents du début des années 1990 d'avoir vécu cette époque baignée dans cette mouvance rugissante, me diriez-vous? Ben en fait, non, pas tant que ça. Vu que collé dans la même phrase adolescent et époque baignée relève souvent de l'oxymore. On était des anges en constitue une belle illustration. L'histoire met en scène une bande de jeunes qui se forment pas vraiment la gueule. Ouais, je cite Renaud, j'ai bien le droit de faire du social. Résident d'un bled paumé d'Alsace, imaginaire mais emblématique, Isheim, comme la moitié des bleds d'Alsace se terminent par Heim, on sait à peu près où on se trouve. Ils traînent leur spleen de fin d'été en attendant avec impatience l'âge de la majorité dans quelques mois, perspective ou mirage de la liberté absolue. L'arrivée de la mystérieuse et envoûtante Persille va être l'élément déclencheur de l'histoire. Entre ces jeunes, des intrigues amoureuses vont se tisser ou se renforcer avec leur lot d'espoir, de déception et de sentiments inavoués, dont le problème est bien sûr la capacité à les exprimer, ou non. désir de s'évader du quotidien, soit par la musique, soit en se barrant définitivement de ce bled, en plaquant des parents tyranniques ou largués, mais forcément toujours à côté de la plaque. D'emblée, le ton est donné avec une brillante démonstration de phonétique sur la prononciation correcte du mot « fuck », délivrée par Hervé qui a eu la chance d'aller aux States, prestige assuré auprès de ses potes. On découvre ainsi tous ces jeunes, archétypes de leur génération, et des différents courants musicaux de la période qui formeront la toile sonore du récit. Le punk avec Hervé et Vivi, qui est, on peut le dire, l'une des principales héroïne de l'histoire. La New Wave avec Chris, qui est un clone très réussi de Robert Smith des Cure. Le hard et le metal avec Red, qui trouve toujours des paroles de Metallica, Maiden, etc. appropriées aux événements. Mais cette bande de désœuvrés comporte aussi des membres qui sont soit sans identité musicale affirmée, tels les deux jumeaux René, c'est comme ça qu'on les appelle, sorte de skinheads sympathiques toujours en train de se chifouiller. Soit qui se laisse bercer par les tubes mainstream de l'époque, comme Cyndi Lauper ou Prince, on a vu pire. Ce qui donnera d'ailleurs le prétexte à une querelle d'esthètes opposant fans de rock et fans de tubes, lors de l'incontournable boom qui dégénérera rapidement. Soif de liberté, d'amour, d'aventure, de musique, On était des anges convoque tous les thèmes du malaise adolescent. Ce n'est donc pas l'originalité de l'intrigue qui importe ici, mais cette capacité à donner vie à une galerie de portraits attachants, sincères et authentiques. De ce point de vue, les auteurs ont amplement réussi leur coup. On devine qu'il y a beaucoup de vécu derrière tout ça, car on a tous traversé avec plus ou moins de bonheur cette période compliquée et charnière de notre existence. Le mérite en revient d'une part à un scénario dense, mais très fluide, avec des dialogues et une psychologie des personnages qui sonnent juste, et d'autre part, un graphisme expressif, avec une mention spéciale pour les regards, et très efficace, agrémenté d'une mise en couleur parfaitement raccord avec un beau travail sur les trames de noir. Le tome 2 est annoncé pour août 2026, et on a hâte de découvrir ce que seront devenus les héros 30 ans plus tard, donc en gros aujourd'hui, ainsi que la vision que les auteurs auront eue de la musique rock aujourd'hui.
Très très cool.
Alors j'ai eu la chance de rencontrer les auteurs au repère des héros pas samedi dernier mais le samedi d'avant, donc je les ai interviewés, peut-être qu'on pourra passer le fichier son, et puis si on a d'autres perspectives d'interview, de toute façon vous pourrez retrouver tout ça sur rockebd.com. Et puis préciser quand même que ça se passe chez Dargo, l'éditeur, que donc c'est paru le 27 février 2026, donc c'est un diptyque dans le genre on va dire chronique sociale, et puis forcément avec un fond de rock derrière. Il y a 152 pages et ça vous en coûtera, et je vous le conseille vivement, 22,95 €.
Eh ben, ça a l'air très très cool. Tip top. En plus, vous avez pu voir, ceux qui regardent sur YouTube, une superbe dédicace dans le bouquin et un ex-libris qui est offert lors de la dédicace, j'imagine.
L'ex-libris était avec l'envoi, puisque c'est un service de presse, hein, donc merci, merci aux éditions Dargo. Non, pardon, je me plante. C'était Woodstock 69. Je mélange. C'est moi qui ai payé avec mes petits sous-sous. C'était au repère. En tout cas, il y avait cet ex-libris. Je sais pas s'il a été fourni avec tous les exemplaires de l'album. En tout cas, au repère, il y avait ça.
Très très cool. Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale. J'ai fait une petite sélection. Hop là, je suis en train de tout casser. Un petit morceau qui va, à mon avis, aller bien. Le clash, enfin, pas le clash, la rencontre de deux époques avec le morceau Oh Not to Drown du groupe Churches en duo avec Robert Smith. Donc on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. Et on va parler de bande dessinée et d'espace dans un instant, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec nous le grand Philippe Cardona. Bonjour Philippe.
Bonjour. Alors,
on va parler ensemble de ton album Starlight, qui sort aux éditions, est sorti aux éditions Dupuis le 6 mars, donc en début de mois dernier, quasiment presque un mois tout pile, et puis un petit peu de tes carrières. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter un petit peu aux auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? On t'a
Moi c'est Philippe Cardona, je suis auteur, dessinateur de manga et BD depuis très longtemps, on va dire. J'ai commencé en 2000, et j'ai travaillé sur plusieurs séries, notamment Santa High School, Serge le hamster de l'enfer, Noob, Foot de rue, et donc là actuellement je suis sur deux séries, c'est Les Légendaires Missions, qui est une série spin-off de la BD Les Légendaires, et donc sur Starlight. Je m'excuse pour ma voix, parce que je sors d'un mauvais rhume.
Ok, pas de souci pour le rhume. J'ai découvert ton travail dans le magazine Coyote, qui n'existe plus hein, de mémoire.
Ah si, il existe encore.
Ah, il existe toujours. Bon, on t'a...
Ouais.
J'ai découvert du coup Santa High School par cet intermédiaire, qu'on considère comme étant un des premiers mangas français, je me trompe ou...
Oui, bon après c'est vrai, les avis divergent, il y en a qui disent que c'est pas du manga, et il y a ceux qui disent que c'est du manga, mais c'est vrai qu'on est on fait partie de la toute première génération de Français faisant du manga au début des années 2000. Santa East en Coyote c'était en 2002 et le premier tome est sorti en 2003.
Santa High School qui narre les aventures d'un groupe de jeunes garçons, enfin de jeunes au global, parce qu'il y a des filles aussi, dans une école qui leur apprend à devenir des super-héros Sentai, donc les super-héros traditionnels japonais, à la Bioman un petit peu, c'est ça hein.
Ouais, c'est ça. C'est ça, avec Flo, on a toujours été fan de ce genre de série. Et par moments, on les regardait un peu en se moquant, puis après, on les regardait en disant « Ah ouais, non, mais en fait, c'est bien au premier degré et tout. » Enfin, on a cette espèce de relation un peu particulière avec les séries, on va dire, type Bioman. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi on a choisi des persos comme ça. Je sais qu'on voulait faire une école de héros. Et puis pourquoi on a choisi ces cinq personnages là comme ça, je me rappelle plus bien.
C'est pas très grave. Mais c'était très drôle et très fun.
Ah merde.
Avec beaucoup de références, je pense que les gens qui regardaient ces séries là le savouraient encore plus avec toutes les petites références qui étaient cachées, que ce soit avec justement les Bioman qu'on peut croiser, mais aussi d'autres références à la pop culture. Et qui ont longtemps été un petit peu ta signature, de cacher plein de trucs un peu partout.
Ouais, c'est quelque chose. J'aimais bien faire ça, même dans mes premiers dessins. Je dessinais un peu un perso à moi, puis à côté, j'allais dessiner une espèce de faux Spider-Man, tout ça. Quand j'ai découvert L'Empereuse de Troyes de Didier Tarquin, j'ai vu que lui, il n'hésitait pas non plus, il se lâchait. Il y avait des petites références cachées par-ci par-là. Il en faisait même des concours. Dans les pages de l'album, si on lisait, on retournait un grimoire, on voyait qu'il y avait marqué trouver telle référence et tout. Si vous l'envoyez à temps, vous gagnez une dédicace sur notre album. Et je me suis dit, ah mais ouais, c'est cool ça, on peut faire ça, on peut dans sa BD mettre en plus faire des petits clins d'œil aux trucs qu'on aime. Donc j'ai commencé à le faire avec Flo dans Santa High School, et puis c'est vrai qu'on s'est un peu emballé. Et il y a énormément de références. À tel point que quand on a ressorti la série en 2016, à la fin de chaque album, il y a une sorte de petit Wikipédia où je liste toutes les références qu'il y a dans les albums.
Ah oui, ça devait être un travail titanesque d'aller les chercher pour le faire, ouais.
Oui, surtout que moi, comme je fais toujours ça bien et un peu maso, je mettais le nom du personnage en français, mais aussi en japonais, le nom de la série en français, le nom de la série en japonais ou en anglais. Enfin bref, voilà, j'étais un peu trop complétiste, mais au moins, tout est là, tout est listé. Et si les gens veulent chercher, ils peuvent lire d'abord la série, on va dire, juste pour l'histoire que c'est, l'humour un peu crétin qu'on a, Florence et moi. Ensuite, on peut faire une deuxième lecture où on peut chercher les références. Quoi.
Ah, un petit jeu de piste bien cool à faire.
Ouais, voilà. En fait, moi, perso, ça m'a toujours embêté de dire il y a des gens. Enfin, j'ai des gens. On va lire un livre et puis on va le poser. Et puis voilà, c'est fini. On le lira plus et tout. Et j'aime bien qu'un bouquin, qu'une histoire ait plusieurs vies. Qu'on puisse le relire, y revenir, le lire encore et tout. Donc ouais, il y avait aussi ce côté-là dans la création de Santa, il y a le fait de mettre les petites références.
Parfait. Une évolution, puisque au fil du temps, tu vas finir par travailler justement sur une série culte pour les enfants, Les Légendaires. Ouais. Comment ça se passe de travailler sur une série qui est aussi attendue?
Ça va faire un peu langue de bois, mais il n'y en a pas, en fait. C'est juste, enfin, je me régale. C'est super bien. Travailler, donc, le créateur de la série, c'est Patrick Sobral, qui chapeaute toutes les séries estampillées Les Légendaires. Il surveille tout, il regarde, enfin, il participe au scénario de tous les bouquins. Il regarde qu'on fasse pas de bêtises avec les persos, dessiner quelque chose qui serait pas dans leur personnalité ou même, qui rentrerait pas dans le cadre de la BD. Et non, franchement, ça se passe super bien. Ça fait 5 ans que je suis sur la série. Et ouais, il n'y a jamais eu de problème, en fait. Voilà, de temps en temps, je fais une erreur sur un dessin. Patrick me dit, attention, là, l'épée, il faudrait que tu la redessines un peu. Et non, franchement, c'est top. Et pour le coup, je sens pas... Enfin, c'est assez bien fait avec Patrick, avec donc Thierry Jour, qui est aussi notre éditeur chez Delcourt. On sent pas du tout la pression, on te dit pas attention, t'es sur Les Légendaires, oh là là, il faut pas que tu te loupes et tout, non, c'est une série, on va dire, comme une autre, mais ouais, c'est ça, on nous fout pas la pression sur le dos.
C'est trop bien, c'est, ouais. Je pense, le meilleur mode de travail.
Ah oui, clairement, ouais.
Tu dis nous depuis tout à l'heure, tu as évoqué Flo, je vais la nommer parce que du coup les gens ne connaissent peut-être pas. Flo, c'est Florence Torta, oui. Ta comparse de toujours, qui fait toutes les couleurs, qui supervise, qui dessine aussi de mémoire. Hein.
Oui, elle dessine aussi. Le problème, c'est qu'elle est trop timide et elle veut pas montrer ses dessins et voilà, c'est un peu relou alors qu'elle est tout à fait capable de faire des super trucs, mais faut la pousser un peu.
Peut-être qu'un jour.
Ouais, j'espère, parce qu'elle a des super trucs à raconter. Elle a des scénarios complets et tout, mais qui dorment dans des tiroirs. Je dis, mais fais quelque chose avec. Et donc, si des dessinateurs nous entendent et veulent la contacter pour dessiner une de ses séries, ou si des éditeurs passent par là, voilà.
Il y a moyen de faire quelque chose.
Ah oui, clairement.
Avant Les Légendaires, alors je suis pas sûr de ma chronologie, tu as rencontré les équipes de la web série Noob.
Ouais.
Tu as fait de la figuration dans la web série avant de prendre en charge des albums dérivés de la série.
Ouais. Oui, ça aussi, l'histoire est totalement folle parce qu'en plus ça s'est passé sur quelques mois, quoi. C'était à Japan Expo Marseille en 2009. Donc février 2009, où il y a deux fans de Sunday School qui viennent nous voir et qui disent ouais voilà, nous on fait une web série qui passe bon, donc sur le net mais aussi sur la chaîne No Life, qui existait à l'époque, et d'ailleurs elle a fermé, c'est bien dommage. Et ils m'ont demandé est-ce que tu pourrais faire un dessin pour l'équipe et tout. Et comme il se trouve que moi aussi je connaissais leur série, parce que j'étais tombé dessus sur No Life, j'avais bien aimé, je regardais les épisodes, je fais écoutez, pas de problème, ouais, je vous fais un petit truc et tout. J'ai rencontré Fabien, créateur de la licence, je lui ai filé le dessin, il l'a mis sur le net, et il y a eu énormément de partages et de likes et tout, c'était hallucinant, c'est parti direct, une espèce de mini-hype. On s'est dit, tiens, c'est rigolo, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un truc. Et au fil des mois, donc de 2009, effectivement, Flo et moi, on a joué dans un épisode où on jouait des personnages qui ne devaient être que dans cet épisode-là. Bon, 15 ans plus tard, on est toujours là, mais on va pas se plaindre, surtout que nos persos sont appréciés par le public. Et donc, ouais, c'est ça, on devient pote au fur et à mesure, et c'est vraiment genre un soir, entre une boîte de pizza et deux parties de Mario Kart, on se dit, bon, on le fait, cet album BD ou pas? Et Fabien a écrit des scénarios de gag, parce que les trois premiers tomes, c'était du gag, en une page. Et j'ai dessiné les trois pages, Flo a fait les couleurs. On a montré ça chez Soleil. Ils ont dit OK, banco, on le fait. Mais clairement, j'étais avec Mourad Boudjelal, l'ancien patron de Soleil, et qui a le truc et il a dit bon, il faut qu'on le fasse. Voilà. Et le seul petit piège qu'ils nous ont tendu, c'est qu'on a signé le contrat en novembre-décembre 2009. Et ils nous disent, l'album, faut qu'il sorte en mars-avril 2010. Ce qui fait qu'en fait, on a eu un mois et demi pour faire le premier tome de Noob. Scénario, dessin, couleur. En la fin, ouais, en un mois et demi. C'était assez sport. Surtout que je faisais foot de rue à côté et Flo avait aussi d'autres projets à côté. Mais on a réussi.
Un gros challenge. Avec belle réception en plus.
Ouais, ça a super bien marché. La chance qu'on a eue aussi, c'est que, comme c'était du gag en une ou deux pages, on est passé dans le Landfest Mag, et ça nous a vachement aidé, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus. Il y avait les fans de la web-série, qui donc se sont intéressés à la BD, et puis il y a des gens qui ont vraiment découvert Noob, par le magazine, et qui savaient même pas qu'il y avait une web-série derrière, quoi. C'est ça qui est très drôle. On avait vraiment deux publics totalement différents.
Qui se sont rencontrés et qui ont fait une fanbase assez forte, quoi.
Oui. Ah oui, la communauté des fans de Noob, elle est géniale. On le dit à chaque fois, c'est quand on prend le côté juste web-série, on est tous des comédiens amateurs, on fait ça sans être payé, on fait ça le week-end pour s'amuser. Comme on dit, on est toujours... voilà, on est une bande de crétins habillés n'importe où dans la forêt, quoi. Ça fait depuis presque 20 ans et les fans sont toujours là à nous soutenir et tout. C'est rare d'avoir, je pense, des fans qui sont autant fidèles et qui veulent participer, nous aider, à essayer d'améliorer la série et tout. Donc franchement, ouais, le côté Noob, c'est vraiment c'est super plaisant pour ça, quoi. Bon, côté créatif, ça se passe bien. Côté public, ça se passe bien. Donc, bon.
Parfait. Tout est bien dans le meilleur des mondes.
Ah ouais. Le seul truc dommage, c'est que Fabien, n'ayant plus trop le temps d'écrire, parce que il chapeaute tout l'univers Noob, on a mis la BD en pause au tome 13, qui conclut, en gros, ça conclut un grand cycle, qui fait que si le lecteur arrive au tome 13, voilà, il dit « Ah bon, d'accord, c'est fini », mais il y a quand même plusieurs portes pour faire une suite un jour. Et je sais que Fabien a envie d'en refaire, ce qui lui manque c'est le temps. Flo et moi aussi, on est chaud pour y retourner dès qu'on peut. Donc là c'est juste le temps qui nous fait défaut, mais on est bien motivé pour en refaire un de ces quatre, quoi.
On attend, hein. Et ce qui nous mène à aujourd'hui avec Starlight qui sort aux éditions Dupuis. J'ai regardé un petit peu partout, j'ai l'impression que c'est un projet qui traînait depuis un petit moment déjà.
Dans les tiroirs, même dans mes classeurs de cours de français. J'ai créé ça quand j'avais 14 ans et que j'étais au collège. Alors quand je dis ça, j'ai créé les personnages, en fait. Okay. J'ai créé les personnages qui seraient amenés à devenir les héros de Starlight. Ça s'appelait pas du tout Starlight au début, il y avait pas vraiment de scénario, c'était un chevalier, une pirate dans l'espace, qui avait des petites aventures. J'avais fait plein de dessins, plein de croquis et tout. Et ces persos m'ont jamais quitté au fil du temps, je les ai toujours, je les dessine un peu dans un carnet, quand j'avais le temps, des petits trucs et tout. Et jusqu'au moment où je me suis senti de me lancer, de dire « Ok, là, faut que j'en fasse quelque chose de ces persos ». Et j'ai commencé à lancer le projet Starlight, qui a eu 3 ou 4 versions différentes, je crois. Je sais plus. J'avais commencé à faire des pages, je me suis dit « Ah non, comme ça, c'est pas bien ». Alors j'ai fait une autre version et tout. Et ce qui a amené à la version actuelle, qui est sortie chez Dupuis, et qui est ma version préférée, heureusement.
Et une version qui a beaucoup évolué aussi au fil du temps, depuis la proposition chez Dupuis. Parce que si je me trompe pas, ça devait être d'abord plutôt des couvertures souples en petits épisodes, c'est ça, hein?
Non, en fait, ça devait être un manga à la base.
Ah, c'est ça.
Ce qu'il y a, c'est que j'avais fait donc un dossier qui était un projet manga que j'envoyais à tous les éditeurs. Les seuls qui m'ont répondu m'ont dit non, mais c'est pas pour nous, ça correspond pas à notre ligne éditoriale. Et moi, à chaque fois, je demandais, c'est quoi votre ligne éditoriale? Peut-être que je peux vous faire un autre projet. Et comme ils étaient tous très polis et que personne ne me répondait, je suis allé voir ailleurs, je suis allé voir chez Vega, qui est le label manga de Dupuis, qui était en train de se monter à l'époque, où ils avaient déjà sorti pas mal de trucs, et je leur ai dit, ben voilà, est-ce que vous voulez faire de la création française avec des auteurs français? Et ils m'ont dit, ah ben ouais, justement, on cherche et tout, c'est vraiment, une fois au bon endroit, au bon moment. Et j'ai montré le dossier, le responsable édito chez Vega a adoré. Donc ça s'est, là aussi, ça s'est fait vite, enfin vite pour signer le contrat, et après il y a eu beaucoup de travail derrière. Et puis après il y a eu des trucs en interne chez Dupuis, justement, où Vega a été racheté à 51% par un groupe japonais. J'ai oublié le nom de l'éditeur, c'est vraiment un gros éditeur japonais, qui eux ne voulaient pas faire de création française. Donc il y a plein de projets, de ce que j'ai compris, qui ont sauté. Et moi, Starlight, du coup, c'est arrivé sur le bureau d'un des grands patrons de Dupuis, qui l'a lu, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, ton histoire, elle est super, mais en manga, j'y crois pas, je pense qu'il faut en faire des albums de franco-belge, et que, ouais, là, on touchera plus de lecteurs. Mais en me laissant... en me laissant la potentialité, de le laisser au format manga.
Okay.
Il m'a dit, écoute, le bouquin était fini, hein. Le bouquin était totalement fini, avec des trames et tout. Ils avaient engagé quelqu'un pour faire les trames. Et il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment que ça sorte en manga, parce que c'est le format que tu veux et tout, machin, pas de problème, on te le sort. Et moi, j'ai dit, non, écoute, tu me proposes quelque chose qui sera plus vu. Plus mis en avant, non, je vais prendre ça. C'est pas une question, c'est même pas une question de fric. C'est, j'ai dit, moi, je fais un bouquin pour qu'il soit lu. Si je sors un manga parce que je fais en gros un caprice de, je veux mon manga, et que ça touche 500 lecteurs, ben, je préfère faire un autre truc qui me plaît tout autant. Parce que moi, la BD franco-belge, j'en lis depuis que je suis petit. Si ça permet de faire lire la série à plus de monde, je préfère, quoi. Voilà. Et puis les projets manga, j'en ai d'autres, donc c'est pas impossible que quand dès que j'ai un peu de temps, j'en remonte un, quoi.
Donc ça, c'est cool. Mais du coup, ouais. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir un jour une version manga complète de Starlight, puisqu'elle existe.
Ah oui, elle existe. Le tome 1 existe. Le tome 1 existe. Il y a eu quelques modifications sur les dernières pages, parce que forcément, du coup, le cliffhanger de fin marchait pas pareil, puisque du coup... Le premier tome manga faisait 200 pages. Ils m'ont dit en franco-belge, on va faire le premier tome qui fait 120 pages. Et le tome d'après, enfin, le tome 1 en gros fait 120 pages, voilà. Et à partir du 2, les albums feront 90 pages. Et il m'a dit, bah, tiens, avec tes 200 pages de manga, t'as déjà le 1 et quasiment le 2. Il manquait 10 pages pour finir le tome 2 format franco-belge. Et c'est là que j'ai remanié un peu, tac, 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 pour me permettre de faire un tome 3 sur lequel je suis en train de travailler là, quoi.
Ok. Ouais. Vas-y, je t'ai
googlé. Non, c'est...
du coup, j'avais une question. Comment tu travailles? Parce que j'imagine que déjà, travailler du manga et travailler du franco-belge, on le travaille pas de la même manière. Mais tu travailles plutôt en traditionnel, en numérique. Et quelles sont les contraintes, en fait, sur ces deux formats?
Ça dépend des projets, c'est pas tant parce qu'il y en a un qui a un manga, un autre qui a une BD et tout. C'est je m'adapte en gros à la manière dont j'ai envie de dessiner. Et sur les légendaires, c'est du numérique. Je travaille sous Clip Studio Paint avec une palette et tout. Mais c'est parce que c'est plus simple après pour montrer à Patrick et il me dit, enfin si j'ai des retouches à faire et tout. Je retouche la case en question, même des fois je retouche juste un calque, et c'est beaucoup plus simple pour le repasser à Florence pour faire les couleurs. Parce que si je travaille en traditionnel, il faut que je scanne la page, que j'envoie à Patrick, qu'il dise « Ah, là, ça va pas très bien », il me renvoie le truc, je le redessine sur papier, je dois le scanner, le remonter, c'est super long, quoi. Mais de notre côté, voilà, du coup... Les légendaires, c'est du numérique, mais sur Starlight, c'est que du tradi. Parce que j'ai envie d'en faire aussi, parce que voilà, refaire des trucs un peu ancrés à la plume, ça me fait super plaisir. Mais ouais, Starlight, je pense que je l'aurais pas pu le faire à l'ordi, ça m'aurait pris trop de temps et j'aurais pas pu avoir les effets de certains effets de dessin ou d'ancrage que j'aime bien faire. Et comme je sais pas paramétrer un ordi, je me dis bon, je vais le faire sur papier à l'ancienne, et puis ouais, j'y prends beaucoup de plaisir.
Oui, et puis ça remonte peut-être justement aux marges des cahiers de français.
Ouais, oui, c'est clair.
On en parle depuis tout à l'heure de Starlight, mais de quoi ça parle? Est-ce que tu veux faire le pitch de Starlight?
Alors ouais, je veux bien. Après ça, c'est ça aussi. T'en as travaillé un toi. Je veux pas te.
Moi, ça va être très simple. Hein, c'est avec mes mots, mais autant que ce soit, ça vienne de toi. Je pense que c'est mieux.
Ouais. Alors Starlight, bah, c'est une grande aventure donc spatiale et qui suit les aventures de Sirius, qui est un jeune terrien de 15 ans, qui est un inventeur de génie, même si des fois ses inventions sont pas super au top et font des catastrophes. Et il s'avère que ce brave garçon, il vit sur la planète la plus perdue, paumée, au fin fond de l'univers, qui apparaît sur aucune carte ni rien. Il est le seul terrien là, à habiter là, avec toute une bande d'extraterrestres avec qui ça se passe très bien, mais bon. Et lui, il a qu'un seul rêve, c'est soit construire quelque chose pour quitter la planète, soit que des gens viennent le récupérer et qu'il puisse partir. Il veut explorer l'univers. Il n'y arrive pas vraiment très bien avec ses inventions, comme je disais. Et jusqu'au jour où il y a une navette qui va s'écraser sur sa planète, on dira pas comment, mais bon, c'est un peu sa faute à lui.
Ouais, et
ouais, voilà. Et en allant voir comment vont les occupants du vaisseau, il tombe sur Chantilly, qui est une jeune fille extraterrestre. Qui en fait était prisonnière, elle avait été enlevée par deux pirates de l'espace. Donc Sirius va l'aider à se débarrasser des deux pirates, et puis après il va essayer de la cacher tout en gardant en tête qu'il y a peut-être moyen de récupérer des trucs sur le vaisseau des pirates et enfin quitter cette planète-là. Et ça on va dire c'est le début du tome, hein, c'est vraiment les 20-30 premières pages, et après... Et après, j'ai pu, à partir de là, construire un récit où je me focalise vachement sur les relations entre les deux personnages. Je voulais vraiment que les deux héros soient, qu'ils aient un caractère qui leur soit propre, voir comment ils fonctionnent, s'ils s'entendent bien, s'ils s'entendent pas, et en fait, bah, ils deviennent super potes, quoi. Mais, je trouvais ça bien pour le tome 1 qu'on ait une partie aventure, une partie découverte et tout, et une partie vraiment centrée sur les personnages. C'est pour ça que dans le tome 1, il n'y a pas énormément de persos, mais parce que je voulais que ces deux-là, là, les deux héros, je voulais qu'on les définisse bien.
Dans ce tome 1, on a un côté un peu road trip buddy movie, en fait, avec deux persos qui apprennent à se découvrir, avec des caractères pourtant assez opposés.
C'est ça, ouais. Ouais. Ah, mais moi, j'ai toujours voulu écrire, dessiner une histoire où justement, ouais, bah, côté road movie ou Odyssée, où les personnages vont de, bon, alors là, c'est de planète en planète pour découvrir des nouveaux trucs à chaque fois. C'est comme dans One Piece où à chaque fois ils découvrent une nouvelle île avec des nouveaux habitants, de nouvelles manières de faire et tout. J'adore ce genre de trucs. Ouais, j'aime bien les héros qui ont la bougeotte, quoi.
Là, le premier tome, ça bouge pas beaucoup de la planète, même si la planète en elle-même regorge de choses plus ou moins bizarres. Hein.
Oui.
Parce que, ne le cachons pas, tu as une imagination qui est, à mon avis, très débordante. Et ça se ressent à chaque fois. Et c'est très cool, en fait, de se trimballer avec ces deux personnages qui tentent plus de survivre malgré une connaissance du milieu assez forte, quoi.
Ouais, c'est sûr que le tome 1, même si, bon, bah oui, ils vont pas partir de l'espace dès le premier tome. Désolé si je spoil un peu les gens, mais rassurez-vous, c'est pas le plus important. Et oui, l'idée de, j'allais pas juste les laisser sur la planète, sur un caillou de bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, j'avais envie qu'ils se déplacent, qu'ils explorent des trucs, oui, montrer des décors un peu différents, et j'aime bien faire les doubles pages où on a un grand décor. Et ce qui fait qu'on voit bien le truc et tout. Donc ouais, je voulais quand même qu'il y ait une exploration de la planète où ils sont.
Ouais, puis on le ressent très bien, c'est très immersif. Surtout aussi avec les couleurs, donc du coup qui sont dues à Florence.
Oui.
Il y a plein d'effets très lumineux. Florence travaille en numérique sur tes pages, j'imagine.
Oui, elle travaille, bon, elle sait avec Photoshop, mais oui, elle travaille à l'ordi. Et justement, c'est quand j'ai vu les premières pages mises en couleur par Flo, parce que J'ai pas juste dit à Dupuis, prenez-la parce que c'est ma femme. Non, non, je l'ai même pas dit. Je fais, alors il y a elle, elle est coloriste, elle sait faire des super trucs et tout. Elle a fait des essais, voilà, comme tout le monde. Et ça a matché. Et dès que j'ai vu, ouais, les premières pages arrivant en couleur, je fais, ouais, c'est bon, voilà, j'ai plus de doute maintenant. C'est pas un manga, c'est une BD franco-belge parce que les couleurs, elles apportent un truc de malade. C'est un des meilleurs boulots de Flo. Qui, pareil, elle a commencé en même temps que moi, donc ça fait pas mal d'années qu'elle fait de la BD. Et ouais, le bouquin est là, elle est en train de faire les pages du tome 2. Ça va être beaucoup, j'en peux plus, quoi. Je suis super content.
Bah, ça se ressent hein, sur les différentes pages. Hein, c'est mention, j'ai perdu le nom, l'espèce de rivière iridescente là.
Ah oui, la cascade contrariée.
La fameuse cascade contrariée où les effets lumineux sont. Ouais, c'est assez charmé, je trouve.
Ouais.
Oui, vas-y.
Non, vas-y.
Moi, j'avais une question. Ton style est un petit peu particulier puisque tu es capable de passer de moments un peu épiques avec de la pose de presque super-héroïque à des moments très cartoon en SD. C'est pas un peu compliqué d'arriver à trouver un équilibre entre justement le côté humour et le côté un peu épique?
Non, ça va, j'ai jamais eu ce problème-là. Alors déjà, du côté graphique, bah, c'est parce que j'ai grandi en lisant du franco-belge, du comics et du manga. Et puis même, rien qu'au niveau du manga, quand on lit que des mangas, il y a déjà ces ruptures graphiques où t'as un personnage ouais, hyper sérieux et la case d'après, c'est un petit chibi rigolo. Donc ça, j'ai eu ça toute ma jeunesse et même maintenant, je continue d'en lire. Et j'aime beaucoup justement passer d'un style à l'autre. Et est-ce que c'est compliqué? Non, ça va. J'essaye de pas trop mettre de gags, mais d'en mettre quand même. De mettre un gag, voilà, qui va un peu détendre l'atmosphère, mais pas un truc qui va nous faire sortir de l'histoire. Ça part pas en grosse parodie à la Saint High School, quoi.
Ouais, c'est plus léger, plus light, ouais.
Ouais.
Il y a moins de clins d'œil aussi, moins de personnages cachés dans cet album-là. On pouvait l'avoir dans cette high school.
Oui, là, c'était pas. Déjà, comme je disais, ça s'y prêtait pas trop parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a très peu de personnages secondaires. Il y a les héros, il y a les pirates, il y a les extraterrestres qui vivent sur cette planète-là. Et, je me suis dit, justement, c'est mon projet et tout, mon scénario, mon univers. Je dis pas ça en étant prétentieux, mais justement, en disant, bon, il serait temps que j'arrête de me cacher derrière des références et tout, et que je montre un peu ce que je sais faire, voilà. Alors, même si je peux pas m'en empêcher, il y a quand même des petites références, hein, rien qu'à voir le nom de la planète où il est, et le nom du bestiole. Voilà. Mais c'est des petits trucs, c'est plus léger que dans Saint High School.
Okay.
Je renie pas Saint High, mais c'est deux univers et deux manières d'écrire totalement différentes, quoi.
Dans deux formats différents, clairement aussi.
Ouais.
C'est clair.
Ah ouais.
Y a combien de tomes de prévus? On sait qu'il y en a au moins trois. Mais est-ce que ce sera conclu en trois albums ou est-ce que
On m'a fait comprendre, et j'espère que c'est vrai, que normalement il y aurait 4 tomes. Et 4 tomes, on arrivera à la fin de mon premier cycle. Voilà. Oui, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir aller jusque-là, parce que si je dois réécrire la fin du tome 3, ça va être rusher, quoi. ça va être, ah bon, mais c'est bon, on a gagné, au revoir, merci les méchants. Mais ouais, donc, je pense, j'espère qu'on aura au moins 4 tomes. Voilà. Et après, combien il y en aura? Moi, j'ai plein de trucs à raconter dans cet univers-là. Comme tu l'as dit, au niveau imagination, et puis ça fait tellement d'années que je note des trucs pour cette série que j'ai plein de trucs à raconter.
Bon, bah c'est tout le bien qu'on souhaite à cette série, d'aller le plus loin possible. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut te retrouver ton travail sur les différents réseaux?
Sur Instagram, où je suis très actif, et sur Facebook, il y a mes posts. En fait, je poste sur Insta, ça les poste en parallèle sur Facebook, mais Facebook, j'y vais pas, j'avoue. Voilà. Donc c'est bien pour les lecteurs qui sont sur Facebook, qui peuvent voir ce que je fais, mais forcément, je vais pas répondre et tout. Enfin, j'aime pas trop Facebook, mais je suis plus sur Insta. Voilà.
Ok, Instagram.
Ouais, Instagram.
De toute façon, Philippe Cardona, les autres, tout simplement.
Oui. Ah ouais, sous mon. Ouais. Alors il y a un tiré ou un underscore, je sais plus. Mais si on tape Philippe Cardona, oui, on tombe sur moi, quoi.
Ok. Pas de site démo ou un...
que je fasse un site, mais à chaque fois, c'est pas... Je suis nul en ordi. Oh là là, c'est et pourtant, ça fait 20 ans que je bosse avec. Hein. Mais ouais, faudrait que je fasse un site. Faudrait que je fasse un... C'est un Linktree, je crois qu'on dit. Enfin voilà, pareil, j'avais une boutique en ligne, mais le site qui leur mettait d'héberger a fermé. Bon, faudrait que j'en refasse une. Mais ouais. Et en fait, j'ai quelqu'un qui va bien faire tout ça pour moi. Ouais, ça me prend un temps de dingue de bosser sur ordi, enfin de faire ce genre de truc, des sites et tout.
Je comprends. Et en tout cas, on conseille à tous nos auditeurs de lire Starlight de Philippe Cardona et Florence Torta, publié aux éditions Dupuis. C'est disponible depuis un mois dans toutes vos bonnes librairies. Et si vos libraires ne l'ont pas, n'hésitez pas à les tanner pour qu'ils le prennent. Merci Philippe.
Bah merci à toi.
Et puis bon, on se retrouve une prochaine fois, une prochaine sortie peut-être.
Bah ouais, j'espère. Avec de toute façon, je pars plein de festivals là, donc on pourra me retrouver en live sur un stage au poste là où j'ai dédicacé. Donc voilà.
Eh ben parfait. Parfait, parfait. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant la fin de l'émission avec Samurai Pizza Cat et Ramen Man. Moi, ça me fait délirer ce qu'ils font et c'est trop trop bien. Hop, si ça veut bien se lancer.
Merci, merci.
www.radio-g.fr. Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la caisse de Seb. Vous venez d'entendre Ramen Man de Samurai Pizza Cats. Allez voir le clip si vous avez l'occasion après l'émission, vous allez voir, vous allez passer un sacré bon moment de délire. On a aussi passé un petit instant là tout à l'heure avec Philippe Cardona sur son album Starlight aux éditions Dupuis que je vous redonne. Vraiment, allez-y, c'est trop bien. Moi, je vais partir dans un autre univers, si vous me permettez. Hein. Je vais partir chez un auteur japonais qui s'appelle Uketsu. C'est un de mes gros kiffs récents. Uketsu, c'est un monsieur qui se présente avec une espèce de costume noir et un masque blanc, visiblement fait en papier mâché. Il a une chaîne YouTube. Personne ne sait qui il est réellement. Alors peut-être son éditeur quand même. Et il publie du polar. Vous allez me dire, oui, mais Seb, le polar, encore une fois, ce n'est pas de la BD. Oui, mais il faut savoir que ces livres viennent d'être édités en manga aux éditions Kana. J'ai découvert cet auteur-là à travers la publication du tome 1 de The Strange House, de Uketsu, du coup, et de Kyo Ayano. Et depuis, je suis un grand fan, donc j'ai lu les romans. Il a fait actuellement 3 romans, Strange House, dont The Strange House en version manga a été adapté, Strange Pictures, et il vient de sortir aux éditions du Seuil, sauf erreur de ma part, Strange Buildings. Mais de quoi ça parle? Eh bien, on va se focaliser sur The Strange House, je vous parlerai de Strange Pictures une prochaine fois. The Strange House, c'est très simple. C'est l'histoire de quelqu'un qui a envie d'acheter un logement et qui, comme toute personne ayant envie d'acheter un logement et qui n'y connaît pas trop grand-chose, prend les plans, le donne à un de ses potes et lui dit « Écoute, est-ce que tu veux bien me donner ton avis sur l'achat que j'ai envie de faire ?» Le pote, il dit « Bah moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai un pote architecte. Je vais lui proposer les plans et il va me donner son avis. » Et l'architecte lui dit « Écoute, je sais pas si t'as vu, il y a un truc un tout petit peu bizarre sur ce plan. » Et c'est le début d'un grand problème, c'est que les plans sont faits d'une manière où on peut émettre des hypothèses. Et c'est ça que je trouve assez fabuleux avec The Strange House, c'est que toute l'histoire ne repose que sur deux personnages qui discutent d'hypothèses. Mais ça, c'est le début, avant qu'on leur apporte des éléments qui vont s'intégrer dans ces hypothèses-là. L'hypothèse, elle est assez simple, c'est que le logement permettrait à un enfant d'assassiner des gens qui dorment dans le logement des propriétaires. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, puisque le principe du polar, c'est quand même de découvrir au fur et à mesure. Mais c'est très très malin, cette façon de faire, puisqu'on nous présente, nous, lecteurs, le plan, que ce soit dans le roman ou dans le manga, et on va nous laisser regarder ce plan. Moi, j'y connais rien en architecture, ça m'a semblé être une maison plutôt pas trop mal, jusqu'à ce qu'un des protagonistes nous dise « Hey, t'as pas vu ça ?» Donc, on retourne voir le plan, et on fait « Ah ouais, j'avais pas vu ça !» Donc, on commence à regarder un peu plus le plan, on s'y attarde un peu plus, en se disant « Il y a peut-être autre chose !» Et on voit rien de plus. Et un autre personnage nous dit, quelques pages plus loin, « Et au fait, t'as pas vu ça non plus ?» Et on y retourne, et ainsi de suite. Et c'est juste génial, en fait. Alors, j'ai l'impression que je l'ai pas bien vendu, puisque je viens de vous dire qu'on allait lire un manga où on a juste deux personnes qui parlent. Non, parce que effectivement, on va aussi projeter l'imaginaire des personnages avec des reconstitutions de ce que eux ils imaginent. Et effectivement, au fur et à mesure de l'histoire, plein de petites choses se mettent en place et ça rend juste le truc absolument génial. L'adaptation graphique, elle fonctionne très bien. Si vous avez lu le roman, vous allez avoir des petits moments où dessiné d'une certaine façon, vous allez dire hey, « je sais où tu veux m'emmener, toi ». Et puis si vous ne l'avez pas lu, vous relirez le manga et vous referez cette petite étape en disant « ah ouais, mais ça, je l'avais pas vu la première fois ». Et du coup, la boucle est bouclée, parce qu'on vous montre des choses, vous saviez pas, et même quand vous savez, vous les retrouverez. Si vous avez l'occasion, Uketsu, ça se lit assez rapidement, parce qu'il y a quand même, la version roman, il y a pas... Plusieurs fois, on va nous remettre le plan de la première ou des différentes maisons qu'on va pouvoir avoir dans l'ouvrage. Et la version manga, elle est un petit peu plus longue à lire, parce que du coup, il y a plus de matière. Mais ça marche très très bien. Moi, je suis un grand fan de ça. Ça devrait être conclu en peut-être 5-6 tomes, je ne sais plus. Mais c'est vraiment très bien. Donc, si vous voulez des trucs un peu bizarres, allez-y, The Strange House, c'est trop bien. Il y a 3 tomes actuellement, c'est publié aux éditions Kana. C'est de Uketsu et Kyo Ayano, qui l'adapte au dessin. Voilà. C'est tout pour moi. Ça vous va?
Ça donne envie, en tout cas.
Clair. Il est quelle heure, là? Il est 19h56. Il va être temps de nous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ça a été?
Oui.
Oui. Ouais, Flo?
Oui, super.
Eh ben, parfait.
Est-ce qu'on fait un petit récap de...
Allez, on fait un petit récap. On a parlé de, The Strange House. J'arrive pas à parler dans mon micro et attendre le bras pour récupérer les bouquins. Up, de ce Strange House de Ketsu et Kyo Ayano, publié aux éditions Kana. On a parlé de On était des anges, publié aux éditions Dargo, de Pandolfo et Richberg. Mais je pense que
on va faire comme ça.
On va faire comme ça. Et on a parlé également de Starlight de Philippe Cardona, publié aux éditions Dupuis. Philippe Cardona et Florence Tota, pardon. Publié aux éditions Dupuis avec une interview. Voilà, et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et puis on se retrouve dans 15 jours, en n'oubliant pas de lire entre-temps, parce qu'il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par suite-moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
So bright, so bright, so bright that I forgot.